Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien la ministre de la Culture. Vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. On va parler dans quelques instants de l'offensive des grandes plateformes numériques, de leur capacité d'attraction sur les réalisateurs, acteurs, scénaristes français. Mais d'abord, tour d'horizon de l'état du secteur culturel après un an et demi de pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement, jauge, passe sanitaire. L'année a été évidemment difficile pour tout le monde, mais notamment pour le monde de la culture. Dites-nous donc comment vous qualifiez ce matin la situation pour le cinéma, le spectacle vivant, les théâtres, les musées. Est-ce une situation fragile, contrastée ou sérieusement inquiétante pour certains secteurs ?
Je dirais que la situation est contrastée ou en demi-teinte, et il faut la juger et l'analyser secteur par secteur. Dans le secteur du cinéma, la baisse de fréquentation moyenne depuis la réouverture des salles est environ de 25%. Mais là aussi, on assiste à une sorte de bipolarisation du secteur, avec des films qui marchent très très bien, et les films moyens, ceux qui faisaient quand même l'audience, beaucoup plus impactés. Toutefois, on note qu'il y a une reprise qui commence à s'amorcer. Je ne dis donc pas que la situation est inquiétante.
Pour les théâtres.
Alors, voilà. Le spectacle vivant, là aussi des situations extrêmement différentes. Je prends un exemple, l'Opéra de Paris. On observe des très bonnes fréquentations, des bonnes jauges remplies, mais on ne sait pas à l'avance. C'est-à-dire que les abonnements et les réservations à l'avance, là où en début de saison, 45% des places étaient réservées, achetées par abonnement ou en avance, il y a 25%. Donc là, il y a vraiment sur le plan du modèle économique des difficultés. À la Comédie-Française, les choses sont là aussi, les jauges sont très très bonnes.
Et les théâtres privés,
les théâtres, alors,
c'est ce que j'allais vous dire, parce que Michel Guérin dans Le Monde parlait de septembre noir pour les théâtres, et c'est vrai que quand on va au théâtre, en tout cas, ça a été beaucoup le cas au début du mois de septembre, c'était...
Alors, autant il est facile de voir la fréquentation sur les cinémas, puisque tous les mardis soirs, le chiffre a une unité près de tombe, le secteur du spectacle vivant et en particulier du théâtre privé tellement contrasté, tellement émietté, que nous faisons remonter des chiffres petit à petit. Je pense que ce sera tout à fait consolidé à la fin du mois, à la fin du mois d'octobre. Mais là aussi, il y a des spectacles qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est en face d'une sortie de crise ou de changement durable des modes de consommation?
C'est la grande question.
C'est la grande question.
Et quel est votre avis, madame
la
ministre?
Parce que je pense un peu des deux.
C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des secteurs qui vont disparaître au fond?
Non, qui vont pas disparaître. Il faut réinterroger les pratiques culturelles. Nous avons lancé une grande étude avec un grand institut d'études d'opinion et avec l'appui du département des études du ministère sur 3000 personnes. Encore actuellement, pour 52% des gens, pour la moitié des gens, c'est la peur de sortir, la peur de se faire contaminer qui prévaut. C'est absolument pas d'ailleurs la question du pass sanitaire. Cette question-là est réglée, les gens...
Vous pensez pas que ça...
Non,
ça ralentit
je dirais même au contraire.
Ah d'accord.
Au contraire, ça apporte une sécurité pour beaucoup de personnes. Mais il est évident qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude de regarder un certain nombre de spectacles en streaming, ce terme anglais. Il y a le télétravail qui éloigne un certain nombre de personnes des lieux de culture. On est au bureau à Paris ou dans une grande métropole et en sortant, on va au théâtre. Si évidemment, on est chez soi, à 50 kilomètres de l'offre culturelle, on sort moins. Donc, je crois qu'il y a tout un travail de réacculturation au spectacle vivant, de dire que rien ne vaut le contact avec les vrais acteurs, une vraie salle, les échanges, rouge. Et c'est tout cela qu'on doit porter dans le secteur de la culture.
Roselyne Bachelot, Mathieu Kassovitz a dit que le Covid était l'accélérateur d'une crise déjà présente, que la défense de la salle de cinéma s'apparentait à la défense d'une espèce en voie de disparition. Est-ce que vous disiez qu'il pouvait y avoir des éléments qui, dans le paysage, allaient ou pouvaient substantiellement bouger? Est-ce que la question, par exemple, de la disparition de la salle ou de l'amoindrissement de la salle de cinéma vous semble aujourd'hui une question qui se pose?
Qu'il y ait des révolutions à faire de repenser les salles de cinéma, certainement. Mais nous avons le réseau le plus dense de salles de cinéma, 2000 salles, près de 7000 écrans. Et ce que j'ai noté, c'est que au cours de la crise, nous avons maintenu en France ce secteur. Nous l'avons maintenu parce qu'il y a eu des aides massives, des aides publiques massives. Nous avons aussi gardé la seule industrie cinématographique européenne. Nous l'avons fait parce qu'il y a une politique d'État. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai créée. C'est une politique qui a été continue entre les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Ça montre bien que une action publique volontariste permet de garder la culture et nous allons la continuer. C'est d'ailleurs ce que j'ai annoncé avec les aides à la diffusion de films que j'ai annoncé au dernier congrès de Deauville pour la Fédération nationale du cinéma français. Donc il y a une puissance publique et c'est elle qui maintient la culture et qui la maintient en état.
Mais puisqu'on est sur le cinéma, on ne peut pas ne pas parler de Netflix, qui est à l'offensive en France. La plateforme a annoncé mercredi la signature d'un contrat pluriannuel avec Omar Sy. Il n'y a pas qu'Omar Sy, la créatrice de la série 10%, Fanny Herrero, est sous contrat Netflix. Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet prépare un film pour Netflix. Le quotidien L'Opinion citait une figure de la production audiovisuelle qui déplore que nos talents soient confisqués par les plateformes. Aujourd'hui, diriez-vous que Netflix a une telle force de frappe que nous sommes face à un risque d'asphyxie de la production locale? Est-ce de l'impérialisme culturel?
Mais là aussi, il faut lutter avec nos armes. Et ce que nous avons fait pour le cinéma, nous allons le faire aussi pour les plateformes et les séries. Nous allons le faire de plusieurs façons. D'ores et déjà, il y a un plan d'investissement d'avenir pour de 400 millions d'euros qui déjà est sur place pour voir les pratiques innovantes. Nous menons aussi tout un ensemble, une architecture de régulation à travers un certain nombre de directives européennes. Ce qu'on appelle le décret SMAD, les services de médias audiovisuels à la demande.
N'est-ce pas trop lent, voire trop tard, déjà, Roselyne Bachelot?
Je m'y emploie tous les jours.
C'est une guerre de mouvement, là. C'est une guerre de mouvement très rapide.
Je peux aller jusqu'au bout de ma démonstration. Où nous allons demander, nous allons imposer un financement à ces grandes plateformes. C'est d'ores et déjà, l'année prochaine, 250 millions d'euros qui vont être taxés sur les grandes plateformes pour financer la production française. Et puis, dans le plan France 2030, 600 millions d'euros pour justement créer les studios qui permettent de tourner des séries, mais de la formation. Parce que nous avons un problème, c'est que nous sommes très bon dans les jeunes professionnels sur l'écriture cinématographique. Nous avons besoin de mieux les former sur l'écriture de séries. Voilà, il faut
mais
jouer sur les
Netflix pour un jeune.
Les structures, la formation.
Jeune acteur, jeune actrice, jeune réalisateur, jeune réalisatrice, cet attrait n'est-il pas irrésistible au fond, à part la magie du cinéma et la magie de la salle? Qu'est-ce qu'on peut opposer comme argument quand on voit qu'on peut faire des films, qu'on peut faire des séries peut-être plus vite, plus facilement et plus librement?
D'abord, il ne s'agit pas de dire que Netflix n'a pas le droit d'exister, bien entendu, de la même façon que existent des grandes majors, des grandes majors américaines dans le monde du cinéma, ce qui n'a pas empêché un cinéma français d'exister. Il faut avoir une politique publique active qui soit un véritable levier, tant sur le plan des contenants que des contenus. C'est ce que nous sommes en train de bâtir.
Roselyne Bachelot, vous avez vu Squid Game, le carton mondial absolu de Netflix, sud-coréen, ultra violent.
Alors, je n'ai pas vu Squid Game, mais je sais exactement de ce dont il s'agit. Ça appelle un certain nombre de réflexions. D'abord, en soi, c'est une critique sanglante du monde de la télé-réalité. C'est une fable, évidemment, parce qu'on ne tue pas les gens qui ne gagnent pas dans les jeux de la télé-réalité. Mais ça montre bien à quel point des dérives dans les jeux de télé-réalité vis-à-vis des personnes les plus faibles et les plus démunies, combien ces techniques sont violentes. Deuxième point, alors là, plus général, à quel point on est maintenant, et ça rejoint ce que disait Nicolas Demorand à l'instant, on est devant des offres culturelles, entre guillemets, globales, qui irriguent l'ensemble de la planète. Et troisième point, alors beaucoup plus important, qui a été soulevé d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer,
la plupart des
élèves de CM2 ont vu Squid Game, alors que...
Que c'est réservé aux plus de 16 ans.
Exactement,
alors,
Nicolas Demorand.
Est-ce que c'est grave? Parce que oui, honnêtement, moi je connais beaucoup de gamins de 10-12 ans qui ont vu Squid Game, on ne parle que de ça. Et
ils miment dans les cours d'école la façon dont on tue les perdants.
Alors
dans le jeu.
Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça quand on est ministre et qu'on a ça comme problème?
C'est-à-dire on en appelle à la responsabilité des parents, on ne laisse pas des enfants devant de tels spectacles.
Donc c'est un message d'alerte que vous dites, attention, vos enfants regardent Squid Game, il ne faut pas.
C'est un jeu interdit au moins. C'est un spectacle interdit au moins de 16 ans.
Vous dites jeu parce que vous vous êtes mis aux jeux vidéo.
Oui, je joue un petit peu aux jeux vidéo. J'ai commencé il y a très longtemps avec Donjons et Dragons. Je suis une vieille du jeu vidéo. Mais j'en viens aux jeux vidéo. Ce que je fais personnellement n'a aucun intérêt. C'est un secteur de créateurs de valeur extraordinaire. La France a d'excellents professionnels du jeu vidéo. Je suis d'ailleurs allé à Lyon, qui est une des capitales françaises, enfin, après Paris, du jeu vidéo. Et il y a vraiment des jeux vidéo qui irriguent l'ensemble du marché international. Il ne s'agit pas de nous faire piquer notre place.
D'accord.
Allez, au standard, beaucoup d'appels pour vous, Roselyne Bachelot. Commençons avec Tiphaine. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci de prendre ma question. Bonjour Madame Bachelot.
Bonjour.
J'étais samedi devant votre ministère de la Culture pour le mouvement MeToo Théâtre, la première mobilisation. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on pourra vous rencontrer, parce qu'on a des propositions concrètes pour que le pouvoir et les moyens financiers ne soient plus accaparés par une poignée d'hommes, ce qui facilite l'omerta et l'impunité des agresseurs. Et pour illustrer ça, est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'avec l'argent des Français et des Françaises, l'assassin de Marie Trintignant, Bertrand Cantat, soit en ce moment même en répétition sur la scène nationale du Théâtre de la Colline?
Merci Tiphaine pour ces deux questions. Roselyne Bachelot.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes est une des priorités du ministère. Et nous ne sommes pas restés les bras ballants devant tout cela. Je rappelle que d'ores et déjà, un certain nombre des propositions qui ont été lancées par le groupe MeToo Théâtre sont en œuvre. Je pense aux plateformes d'appel, aux référents nommés dans les structures de ma responsabilité. Et d'ailleurs qui continue une politique qui avait été initiée par mes prédécesseurs. On est extrêmement mobilisés et le ministère de la Culture en ce domaine fait figure de bons élèves. Je rappelle le numéro, la plateforme d'appel à l'audiscrime, à l'osexisme. On peut d'ailleurs rappeler le numéro de téléphone 0800 10 27 46 où on peut appeler et signaler dans l'anonymat le plus complet, recevoir une aide soit pour mobiliser la structure où se développeraient ces violences sexuelles et sexistes, soit pour aider les plaignants et plaignantes, parce qu'il n'y a pas que des femmes dans les plaignants, il y a aussi des hommes, les aider à mener une action judiciaire. Donc on est vraiment mobilisés. Et bien sûr, les membres du collectif, une délégation de collectif sera reçue par mes services. Mais j'ai lu tout à fait les appels et il y a beaucoup de bonnes choses.
Dans le droit fil de la question de notre auditrice, une dizaine de potentielles victimes présumées ont été recensées à ce stade dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour agression sur mineurs à l'encontre d'un enseignant du Conservatoire National de Paris. Il a été exclu par l'institution le 9 septembre pour un an. Le 2 octobre, dans une interview aux Parisiens, Roselyne Bachelot, vous déclariez suivre l'affaire de près et attendre le rapport de l'inspection générale que vous aviez diligenté le 15.
Je ne l'ai pas encore.
Vous ne l'avez pas. C'était le 15 octobre. Donc à ce stade,
enfin,
on est le 18, vous l'avez pas.
Oui, mais ça, c'est une question d'heure.
Très bien.
Il y avait le week-end entre-temps. Je n'ai pas regardé la chose pendant le week-end.
On retourne au standard. Marc, depuis du Pas-de-Calais. Bonjour.
Oui, bonjour, particulièrement de la Côte d'Opale. Bonjour à tous, bonjour Madame Bachelot.
Bonjour.
Je suis un passionné d'opéra, j'ai dirigé, ou tout au moins j'ai été administrateur de l'opéra de Lille, Et je suis actuellement dans le Pas-de-Calais, au milieu des champs de betteraves. On a une association qui s'appelle Sous l'Opalétuvier. Et cette association essaye de développer la musique dite classique en général. Et nous avons organisé, lorsque Madame Caroline Sorien a organisé donc les projections de Tosca, et nous avons organisé une soirée qui a très bien marché autour de l'opéra avec des jeunes du Conservatoire de Paris.
Alors votre question, vous êtes là?
Oui.
Votre Allô. Question, on vous écoute.
La question est la suivante. Comment, après la mission de Madame Caroline Sanrier, comment voyez-vous non seulement l'avenir des maisons d'opéra, mais surtout la présence des chanteurs d'opéra physiquement dans les chambres betteraves?
Merci Marc pour cette question. Roselyne Bachelot vous répond.
Oui, effectivement, j'ai confié à Caroline Sanrier, la directrice de l'Opéra de Lille, une mission de réflexion sur les maisons d'opéra. Vous posez une question tout à fait cruciale, qui est celui de la démocratisation et de la diffusion de l'opéra. Chaque opéra doit se comporter comme une sorte de tête de réseau. Il y a évidemment des limites à cela, parce qu'on peut pas mettre dans le champ de betterave une fosse avec 80 musiciens, une scène avec un chœur, mais on peut développer des techniques de démocratisation, et je sens que les jeunes chanteurs sont très allants sur ce sujet. Donc chaque maison d'opéra développe des politiques particulières de démocratisation. Démocratisation, on l'a vu, ça a été d'ailleurs peut-être un des résultats positifs de la crise dont on parlait tout à l'heure. Le fait de pas pouvoir avoir des réservations aussi importante a fait qu'il y a une démocratisation. On a mis des places à 10 €, très accessibles, et ça a attiré les places ont été vendues en quelques minutes, et puis de partir à la rencontre des publics. Alors au milieu d'un champ de betteraves, ça va peut-être être un peu compliqué,
faudra peut-être regarder.
Roselyne Bachelot, Dominique Saut en parlait encore il y a quelques jours à ce micro. Il y a beaucoup de questions autour du non-renouvellement d'Isabelle De Silva à la tête de l'autorité de la concurrence. Est-ce qu'elle paye de son poste sa supposée opposition au projet de fusion TF1-M6?
Écoutez, moi je n'ai aucun élément dans ce domaine qui me permet de répondre à votre question. Je serai très attentive à ce que l'autorité de la concurrence qui réagira, c'est une autorité administrative indépendante, en toute indépendance, regarde que la concurrence, et bien les lois de la concurrence, les règlements de la concurrence soient bien respectés.
Cette fusion TF1-M6, vous la soutenez?
Je n'ai pas à la soutenir ni à la critiquer. Je pense qu'on a besoin, dans un secteur audiovisuel dont on vient de parler, de géants, d'entreprises qui atteignent une certaine taille critique. Mmh. Oui.
Thierry est au standard. Bonjour Thierry, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, je suis bibliothécaire dans l'Isère et j'ai une question à poser à ma ministre. Pourquoi les bibliothèques qui aujourd'hui sont en grève ici en Isère et partout en France, pourquoi vous ne vous battez pas plus pour nous protéger et nous empêcher de contrôler ces passes sanitaires qui aujourd'hui sont un gros problème sur les tiers-lieux?
Merci Thierry pour cette question, Roselyne Bachelot.
Le pass sanitaire, c'est pas une formule administrative, c'est une question de protection de la santé. Et il faut au contraire se battre pour le pass sanitaire. Certes, nous avons exclu du pass sanitaire les bibliothèques universitaires et la BNF et la Bibliothèque nationale de France, ouais. Pardon, et la BPI, ça existe, mais c'est pas de celle-là dont il s'agit, c'est-à-dire la Bibliothèque publique d'information, parce que ce sont des bibliothèques qui accueillent majoritairement des étudiants. Mais bien entendu, dès que cela sera possible, nous supprimerons le pass sanitaire
pour
également
les
dans bibliothèques. Les bibliothèques.
Mais à ce stade, non, pour répondre clairement à notre auditeur.
On n'a pas parlé de la situation sanitaire depuis le début de notre entretien. Il y a effectivement une amélioration très nette de la situation sanitaire. Pour autant, les choses ne sont pas complètement éclaircies. Et il ne faut pas oublier que l'automne et le rafraîchissement de la température sont des facteurs d'aggravation à chaque fois des pandémies virales.
On est à 6 mois de l'élection présidentielle et c'est le moment des bilans. Il y a un paradoxe sur le quinquennat concernant la culture. Jamais le budget de la culture n'a été aussi haut, n'a autant augmenté en tout cas, plus 7,5% encore dans le budget 2022, ce qui est beaucoup. L'État, on vient de le dire, a mis le paquet. Pendant le Covid. Et pourtant, quand on interroge les artistes, les écrivains, les créateurs, ils restent circonspects, Roselyne Bachelot. Certains disent que le quinquennat d'Emmanuel Macron pour la culture aura été un rendez-vous raté, que la rencontre ne s'est jamais vraiment faite entre le président et ce milieu-là. Qu'est-ce que vous répondez à quand vous entendez ça?
Bon, je fais la part de la polémique. Je fais la part aussi de la souffrance. Parce que la situation de la pandémie avec la fermeture des lieux culturels a créé vraiment beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance. Elle a, comme le disait Nicolas Demorand il y a quelques minutes, accéléré des phénomènes consubstantiels à la culture. Je comprends que les artistes se posent des questions devant les mutations de notre société, devant la révolution numérique qui agit comme un bulldozer sur le monde culturel, devant les changements de pratiques culturelles. Et que ça pose cette anxiété, cette souffrance. Je l'entends, mais je peux pas dire que ce soit un rendez-vous raté quand il y a pas que l'argent, mais la volonté, mais ça compte quand même. Cette volonté de sauver le monde de la culture, de l'avoir accompagné d'une façon qui n'existe dans aucun autre pays du monde. Il y a d'ailleurs au moins une chose qui est intéressante, c'est que avec la sortie de crise et le fait que à nouveau les artistes aient rencontré les artistes d'autres pays qui leur disent « mais vous ne vous rendez pas compte, ça n'existe dans aucun autre pays du monde ».
Alors sur le budget de la culture qui est en hausse, Léa le disait, il y a une nouvelle fois un perdant qui est l'audiovisuel public. Roselyne Bachelot, France Télévisions, Radio France, Arte, l'INA voient leur enveloppe baisser. Pourquoi cette baisse à nouveau des budgets de l'audiovisuel public? N'est-ce pas important d'avoir un audiovisuel public fort, très fort dans le paysage médiatique aujourd'hui?
Oui,
et démocratique même, dirais-je.
Bien sûr, il y a un audiovisuel très fort et il y a eu une trajectoire d'assainissement des finances publiques. Pour autant, l'audiovisuel public est massivement soutenu dans notre pays. Je dois dire que j'ai été assez étonné de voir une des candidates majeure, si je puis dire, à l'élection présidentielle,
Marine Le Pen,
proposer la suppression de l'audiovisuel public et sa privatisation, je dois dire, dans un silence assez assourdissant de la part d'un certain nombre de défenseurs précisément de l'audiovisuel public, alors que un audiovisuel public puissant est une condition majeure de la démocratie culturelle et de la démocratie tout court dans notre pays. L'audiovisuel public est un financeur de la création artistique et vous en témoignez, un acteur indispensable de l'information, et Dieu sait si nos compatriotes ont besoin d'une information de qualité dans un monde bouleversé sur ce thème. Véritablement, je me bats pour l'audiovisuel public.
Merci, Roselyne Bachelot.
Ça y est, c'est déjà fini.
Bah oui,
Il y a encore un petit mot, parce que la question revient sur Bertrand Cantat. La musique qu'il produit pour un spectacle au Théâtre de la Colline. Tiffaine, notre première auditrice, nous demandait si vous trouviez ça normal. Que pouvez-vous lui répondre?
Il y a deux choses. Il y a la liberté de création, bien entendu. La question est à poser à Wajid Mouawad, qui ne peut pas, dans ce domaine, être accusé de la moindre complaisance en ce qui concerne la lutte contre les violences. Wajid Mouawad, qui est le patron de la Colline, je précise, qui ne peut pas être accusé de la moindre complaisance dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je n'ai pas à intervenir dans la gestion de la Colline. Je regrette que Bertrand Cantat ait été invité, néanmoins.
Merci Roselyne Bachelot.
Là, c'est vraiment fini.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Madame la Ministre de la Culture. Il est 8h46.